Vous écoutez
RMC. RMC.
Vu le fait que les joueurs soient les ses meilleurs joueurs, enfin en tout cas les trois dans le groupe, les trois joueurs importants soient partis.
Ils avaient besoin d'entendre une nouvelle. Ouais, mais bon, je veux pas revenir sur ce qui s'est passé avant.
Jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Brébois.
Jusqu'à minuit avec Pierre Ducrot, Daniel Riolo, Jérôme Rotten, Julien Momont dans quelques secondes nous rejoint. Juste avant, une petite info importante quand même, donc une grosse info, sur l'avenir d'Alvaro González à l'OM. C'est Florent Germain qui nous envoie cette information depuis Marseille, bien sûr. En fait, l'avenir de González est très compliqué parce que vous savez qu'il est, il y a une option d'achat incluse dans son contrat et elle peut être remise en cause puisque le championnat n'est pas allé jusqu'au bout. Alvaro González, donc, appartient toujours à Villarreal et ben il va falloir que les deux clubs quand même se mettent d'accord. Il y a un vide juridique. En fait, c'est Alvaro lui-même qui le dit. Hein. Je suis dans l'attente. Je suis tous les jours au téléphone avec mon agent, avec Zubizarreta, pour savoir quand est-ce que mon transfert définitif sera validé. Donc voilà, il faut que Villarreal, en fait, y mette un peu du sien dans cette histoire. Quoi.
Ouais, mais bon, si le joueur
l'OM doit mettre un peu d'argent.
Peut-être, je sais pas. Est-ce que
c'est un transfert, hein, apparemment.
Un problème parce que l'OM l'argent.
Ah oui, non, mais c'est.
Parle près du micro, Daniel. T'as plus l'habitude.
Ah mais je sais pas. Tout à l'heure, tu m'as dit qu'il fallait louer.
Oui, parce que tout à l'heure, tu n'avais pas la petite bonnette au-dessus du micro, c'est la petite mousse là.
Il y a des aspects techniques que tu m'indiques pas.
Ça fait juste 15 ans que tu fais de la radio.
Mais 15 ans qu'on fait de la radio, le mec, il a tout oublié en deux mois.
Pas du tout. Tout à l'heure, il m'a dit mets-le plus loin. Maintenant, mets-le plus près.
Alors, je t'explique. Quand il y a la bonnette au-dessus du micro, il faut que tu sois près du micro. Quand il n'y a pas la bonnette, il faut que tu sois loin.
Et non,
ça poque.
Mais moi, sur Alvaro, moi, je veux bien qu'il y ait un vide juridique. Gilbert, mais à l'arrivée, il y a eu un accord qui a été passé entre Villarreal et l'OM. Le joueur, apparemment, il se plaît bien à l'OM.
Mais il veut rester. Il a envie de rester. Je veux absolument rester à Marseille.
Même s'il y a un vide juridique, je vois pas comment ça pourrait pas. Ça ne se ferait pas. Dire Villarreal peut pas l'obliger, si tu veux.
Je te donne un cas. Imaginons que Villarreal dise OK. On veut tant pour Alvaro González. Et l'OM dit, ah ben non, là...
sur le montant,
là,
oui.
Bah, attendez,
oui,
mais... les gars, l'autre option d'achat ne marche pas.
Je
ne
pense
que...
pas que ça joue sur le montant, messieurs. Je pense que le vide juridique, il est sur autre chose. Le montant, il est... Ou alors l'OM est vraiment, vraiment naze de ne pas avoir défini un montant, ce qui n'est pas possible, d'ailleurs. L'option, elle est liée à une condition. Et imaginons que la condition, ce soit qu'Alvaro fasse...
tant de matchs.
60% des matchs officiels de Ligue 1 pour que l'OM puisse avoir le droit de lever son option. Et que avec le nombre de matchs faits, je sais pas, j'ai une bêtise, hein, peut-être qu'il les a fait, mais
non, mais très bon exemple.
Non, il les a pas fait parce qu'il s'est blessé au d'un moment, donc t'as raison.
Du coup, la condition n'est pas réalisée et l'option peut ne pas être levée. Et là, auquel cas, il faut que les deux clubs se rassoient avec le joueur aussi, parce que Jérôme a raison, son avis est important. Si le joueur dit à son club de Valence, j'ai pas envie de revenir à la maison, je veux rester à l'OM, ça va aider à ce que les deux clubs s'entendent. Mais il faut quand même se rasseoir, et quand il y a de l'argent en jeu, surtout en ce moment, tu peux ne pas tomber d'accord.
Voilà, donc à suivre, vous retrouverez tous les détails sur RMC.
Ce serait quand même un gros coup dur pour l'OM qu'ils n'arrivent pas à le faire revenir.
Évidemment.
J'ai lu ça, il a perdu qu'un match, hein, parce qu'il s'est blessé dans cette période ou suspendu, et il a perdu qu'un match avec l'OM. Donc oui,
au-delà de ce chiffre, il était évident que c'était quand même beaucoup mieux au niveau défensif avec lui que sans lui.
Ouais, mais c'est important, Daniel, quand t'as un joueur qui réussit comme ça, qui a des statistiques comme... Tu sais, ça me fait penser à l'époque avec le PSG, avec Sorin, qui n'avait pas perdu un match sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Il y a des joueurs comme ça
qui sont faits
pour un club. Ouais, même... exactement.
Au-delà de leur propre qualité
exactement.
Même le caractère, le regard, il rassure l'autre, il draine une confiance qui peut être communiquée aux autres. Ça va au-delà de la tactique, de tout. Ça peut être très important. Maintenant, comme l'OM n'est pas d'argent, tant que le championnat ne reprend pas avec leur effectif validé, je me dis qu'il peut se passer beaucoup de choses vu la situation financière du club. Encore plus près le micro. Et dis donc.
Bientôt, tu le mets dans la gorge.
Depuis tout à l'heure, là, je n'ai pas l'avalé le micro. Temps qui comptent, ne s'approche pas des objets.
Il n'y a rien qui va sauter du micro à ta bouche, hein, je te rassure, si tu ne le touches pas.
Non, puis vu qu'il a, pour expliquer un peu aux auditeurs, vu qu'il a sa petite lotion pour les mains, je pense que bientôt il va en avaler une gorgée. Parce qu'il se dit, écoute, je suis près du micro, je vais en avaler. Il va nous faire une Trump.
La tactique, on en parle. Julien Momont, bonsoir.
Bonsoir messieurs, bonsoir à tous.
Alors on a démarré avec toi la semaine dernière, on continue cette semaine, on parlera des coups de pied arrêtés, peut-être demain ou après-demain, on verra. Mais ce soir, on va continuer ce qu'on n'a pas tout à fait terminé de faire la semaine dernière, c'est-à-dire évoquer cette thématique-là que tu développes sur les joueurs à tout faire. Et tu dis que nous sommes entrés dans l'ère du joueur à tout faire. Explique-nous quel est le concept.
Avant, on n'était pas beaucoup. Maintenant, il y en a un peu plus.
Non, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui était déjà commun pour un milieu de terrain comme Jérôme, de pouvoir tout faire, être impliqué défensivement et offensivement. Mais c'est quelque chose qui s'est répandu à tous les autres postes.
On connaît des joueurs de côté qui sont moyennement impliqués défensivement.
Oui, en plus, voilà, c'est ça. C'était pas toujours. Il y a eu aussi des spécialisations dans l'entrejeu.
Mais j'ai pas souvenir que Jérôme revenait systématiquement en défense.
Alors tu dis une grosse connerie. Faire un compliment, le coupe pas.
Tu lui enlèves le truc. Non, vas-y,
continue. Il est con. En plus,
laissez-le.
Non, mais Jérôme jouait parfois couloir, parfois dans l'axe. C'était là aussi.
C'était partout.
Et ce qui est intéressant, c'est que quand on voit cette étape-là franchie dans tous les autres postes, un gardien ne fait plus qu'arrêter des tirs, un défenseur ne fait plus que défendre, un attaquant ne fait plus qu'attaquer. Ils sont impliqués dans tous les styles d'action. Et on voit un latéral, par exemple, en effet, qui va apporter offensivement, mais qui peut aussi être passeur maintenant, comme on le voit avec Trent Alexander-Arnold ou comme Kimmich quand il jouait latéral. On voit des numéros 10 maintenant qui sont des joueurs explosifs. On voit des défenseurs centraux qui sont des grands relanceurs. On voit Onana à l'Ajax qui va s'insérer au sein de sa défense centrale. C'est lui qui monte pour ajouter un surnom sur la première relance. Bref, on a vraiment ces joueurs qui, désormais, sur toutes les phases du jeu, sont amenés à porter des choses nouvelles. On a pu ce jeu segmenter, comme c'était le cas il y a 30 ans peut-être.
Mais ça, on le voit dans l'excellence.
C'est évidemment
c'est quelque
ça.
Chose qu'on voit dans certains clubs où il y a une patte, où il y a un travail, on va dire, mis en place par un entraîneur depuis pas mal de temps. Il y a des conditions à la découverte de ces profils-là. T'es d'accord ou pas?
Oui. Et de toute façon, on est vraiment évidemment sur le plus haut niveau, là où on va rechercher le joueur le plus complet possible, parce que toutes les configurations doivent être gérées de la meilleure manière possible au plus haut niveau. Il faut être capable de répondre à une défense basse, à une équipe qui vient presser.
Est-ce que ça s'inclut, est-ce que ce que tu dis inclut des mecs comme Bernardo Silva, qui sont capables Totalement. De jouer en haut côté ou de venir dans le cœur du jeu au milieu et d'avec son gabarit, a priori tu te dis, bon, le gars il va pas vraiment défendre, et en fait il est capable de se battre comme un chien, ou ce qu'on a vu faire même à un mec comme Mahrez, qui a priori n'était pas non plus un mec, tu te dis, il va pas aller trop dans la baston, et il peut ou De Bruyne. Ouais. Alors là, je cite que des mecs de City. Donc est-ce que c'est pas collé aussi, je le répète, à des.
Quand on voit Alexander Arnold à Liverpool, qui est un latéral, il a été formé milieu de terrain, replacé latéral, c'est un poste intéressant parce que c'est là aujourd'hui où il y a le plus d'espace finalement, parce que c'est pas trop la zone où les adversaires vont presser tout de suite. Et donc c'est intéressant d'avoir un passeur comme lui, capable, comme un milieu d'antan finalement, de casser des.
Bien sûr.
Non, mais ce que je voulais dire, c'est les entraîneurs qui ont le plus de temps avec leur groupe. Quand je dis, là, tu me cites également Klopp à Liverpool, des mecs qui peuvent travailler, plus façonner l'effectif. Tu ne crois pas que c'est un peu lié à ça?
C'est plus des profils de poste, parce que Julien a raison sur le fait que, par exemple, ce poste de les latéraux, à gauche ou à droite, aujourd'hui, on leur demande comme avant, mais encore plus aujourd'hui, physiquement, et surtout dans certains clubs comme Liverpool, on leur demande un apport conséquent offensivement, de se retrouver à une position où avant ils ont été formés plus haut et ils sont en retrait, mais vu qu'ils participent beaucoup au jeu offensif, en fait ils ressentent pas le manque et surtout ils se retrouvent face au jeu. Et c'est vrai que ce poste de la
c'est vrai que historiquement c'est souvent des ailiers qui ont été reconvertis. Patrice Evra, c'était un ailier.
Ouais.
Maintenant on voit des milieux de terrain axiaux reconvertis
exactement
ces rôles là parce que c'est des apports de passe aussi, plus seulement de course.
Ouais, t'as beaucoup d'exemples de ça, de mecs dans quel genre de football est-ce que t'as pas ça aussi? Et j'en reviens toujours à la patte de l'entraîneur. T'as pas ça dans les équipes de Nagelsmann, par exemple, aussi. Des mecs, t'as l'impression qu'ils sont un peu bons à tout faire, des gars qui peuvent changer de poste, qui de défenseurs centraux se retrouvent milieu offensif.
À Leipzig, Nkunku est un bon exemple. Il a joué piston, il a joué milieu offensif.
Il a joué attaquant.
C'est un bon exemple.
Ouais.
Et ça confirme un peu cette idée-là, en effet. Et c'est souvent lié, en effet, à des entraîneurs qui vont être très flexibles tactiquement.
C'est ça.
En Italie, notamment, c'est Renzo Olivieri, le responsable de la formation des coachs italiens, considère que le futur du foot est un petit peu déjà aussi le présent.
C'est l'équivalent, Renzo Olivieri, c'est l'équivalent de la DTN. Oui,
c'est exactement.
C'est ça.
C'est la flexibilité tactique. En effet, les coachs qui changent le système match après match ou en cours d'un même match.
Bah là,
et donc, il faut des
et qui peuvent utiliser les joueurs à des postes un peu différents.
Ça doit remettre en question aussi la façon de penser des joueurs, parce que les joueurs, ils veulent toujours être fixés à un poste. Tu vois, je prends l'exemple de Camara à l'OM.
Ça, pour moi, c'est fini, ça.
Camara,
pour moi,
c'est une erreur. Moi, je veux jouer là ou je préfère être défenseur central ou truc.
En fait, d'être fixé.
Pour moi, c'est une erreur.
Alors, moi, je te dis.
Et peut-être que du coup, il faut que les joueurs, ils voient maintenant différemment aussi leur carrière. Parce que la polyvalence peut être un atout, en fait, dans votre carrière.
Le joueur, quel qu'il soit, et que ça soit aujourd'hui ou avant, il a un poste où il se sent le mieux. D'accord? Il se sent le mieux parce que, il sait qu'il va son point fort va jouer. et Pierre il va pas me contredire. Donc à partir de là, t'as ce poste là et tu sais que tu vas t'éclater.
Sauf par si contre, dès 15-16 ans, t'as été habitué, comme dit le mec à la DTN en Italie, où il veut que des mecs, même si non, dès 15-16 ans, t'as joué à plusieurs postes.
Daniel,
et que
plus,
regarde un mec comme Kimmich.
Regarde, moi je vais te dire.
On encourage l'information. De Ligt, par exemple, l'Ajax a joué milieu de terrain pour développer un petit
bien
peu son explosivité.
Mais regarde, moi je vais te donner mon exemple. Alors après, je suis pas la référence, mais mon exemple, c'est que quand j'étais formé, parce que physiquement et tout ça, j'ai joué numéro 6. D'accord? Numéro 6 devant la défense. J'avais 13 ans. 13, 14, 15 ans. Et pourtant, avec mon pied, tout le monde disait pied gauche. Avant, c'était, il va jouer côté gauche pour mettre, bah, comme j'ai fait une grande partie de ma carrière. Mais j'ai été formé là pour, si tu veux, me développer le sens du jeu, la vision du jeu et pour me libérer aussi du contact. Tu vois, d'être un peu plus en retrait
face au jeu, l'espace.
Un peu ce que sont les latéraux aujourd'hui. C'est plus facile aujourd'hui de jouer sur un poste de latéral droit ou latéral gauche que plus haut devant, parce que tu te retrouves souvent soit dos au jeu. Et c'est compliqué parce qu'il faut avoir les armes de se retourner, de faire le bon contrôle orienté et par moment d'être un peu plus bas sur le terrain face au jeu, c'est plus simple. Donc c'est pour ça qu'en fait tu te développes comme ça. Mais à l'arrivée, t'as un poste que tu préfères, mais c'est pas dramatique d'avoir un poste que tu préfères.
Non, mais je trouve, moi, il y a encore quelques, je sais pas si c'est années, mais où t'entendais des discours ou des joueurs ou des entraîneurs disaient, la polyvalence, c'est bien, mais c'est presque un défaut. Des entraîneurs en France, hein, c'était un discours qui était assez entendu en France, à critiquer la polyvalence, parce qu'on a l'impression, à force d'être polyvalent, ils jouent plus nulle part. Alors que moi, j'avais du mal à entendre ça. Je pense que c'est plutôt une qualité. Et si Julien nous le dit, c'est une tendance. Et effectivement, on le voit dans de plus en plus de grandes équipes où t'as des mecs qui peuvent jouer à des postes différents. Et je trouve que c'est très intéressant. On est complètement sorti de l'époque et de la fameuse citation de Bilardo.
Quand on a trop, c'est problématique.
Vient de la citation de Bilardo, Jérôme.
De Bilardo?
De Carlos Bilardo.
Oui, bah oui.
Les joueurs de foot sont comme les femmes. Ils n'aiment pas évoluer dans des positions où ils ne sont pas à l'aise.
Oui. Moi, je pense, messieurs, que
elle est vraie, la citation de Bilardo.
Ouais. C'est pour ça qu'il faut, rendre le.
Alors que tu préfères la polyvalence, toi.
Donne la parole à Pierre Ducroix, on va dire une connerie.
Mieux, ouais,
Pierre.
Non, ça dépend surtout de la qualité du garçon en premier, déjà. Daniel a raison. Un mec qui va être capable de jouer trois postes et d'y jouer parfaitement, il y aura aucun souci avec aucun entraîneur. Au contraire, les entraîneurs vont être ravis. Un mec qui peut jouer trois postes, mais qui finalement n'est pas très bon à un seul de ces trois postes, eh ben, ça veut dire qu'il y a un manque de qualité. Voilà. Ouais. Alors ça passera peut-être un certain niveau, puis ça passera pas au-dessus. Moi, j'allais prendre, tu parlais de formation, Jérôme, j'allais prendre l'exemple d'un jeune que j'ai, moi, qui est à Caen. Qui peut jouer aussi bien défenseur central. Il n'est pas vieux, hein, il est en équipe de France U17. Il peut jouer défenseur central, il peut jouer 6, hein, le vrai 6 devant la défense, sentinelle tout seul. Et puis il peut jouer même milieu relayeur 8-10. Et il a cette aptitude à pouvoir s'adapter et à être aussi bon quasiment à ces trois postes dans toute la colonne vertébrale. Bah, c'est parce que la qualité du garçon est là. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça.
Ça rejoint un peu le débat qu'on avait la semaine dernière, Pierre, sur l'intelligence.
Ouais,
et le développement de l'intelligence du joueur.
Bien sûr. Et bien sûr. Et des joueurs comme ça.
Du poste, mais si on entraîne les joueurs à réfléchir et à résoudre des solutions dans différentes zones, au final,
exactement.
On en développe
exactement. Des joueurs comme ça, ce serait péché de pas les faire progresser aux différents postes où ils peuvent être ensuite utiles et à l'aise. Après, alors, je te rejoins aussi, Jérôme. Il y a des joueurs qui n'ont pas suffisamment de qualité pour être polyvalents et il faut qu'ils progressent énormément à leur poste pour réussir à faire une carrière juste honnête, quoi. Voilà.
Oui, et puis, ça existe. Et puis, t'as aussi ce que veut mettre en place l'entraîneur, parce que t'as des entraîneurs qui restent dans figé, un style bien précis, figé. Ils bougent pas et on en a tous connu aussi. Et j'ai aussi connu, là je tenais l'exemple d'Alain Perrin à Troyes. Moi, Alain, il m'a permis de gagner en volume de jeu. Pourquoi ? Parce que j'ai joué à tous les postes. J'ai joué milieu droit, attaquant droit, milieu défensif, arrière gauche, ailier gauche, numéro 10. Franchement.
Ouais, mais Alain Perrin, un entraîneur qui est partie de ces entraîneurs qui pensent, qui n'est pas figé.
Exactement.
Non, qui aime un petit peu varier, avoir des visions différentes. Mais oui, c'est ce que je mets toujours en avant. J'aime les gens qui pensent dans le foot.
Je pense qu'aujourd'hui, c'est la base. Les meilleurs entraîneurs, c'est ceux-là. C'est ceux qui arrivent à avoir une sensation différente d'un match à un autre.
Aujourd'hui, un mec comme Nagelsmann, pour prendre cet exemple dans la cité tout à l'heure, enfin, c'est le gars, t'as l'impression qu'il est en laboratoire permanent. Julien, c'est un mec qui réfléchit énormément. Un mec qui arrive dans son club, il... Bon, évidemment, s'il est arrière droit, rarement il sera avant centre. On est bien d'accord. Mais les gars, souvent, peuvent se dire « Ah, il y a de fortes chances que le mec me réévalue. »
Oui, mais c'est parce qu'aussi, en effet, ça rejoint ce que tu dis aussi sur le côté, le rôle de l'entraîneur, mais aussi plus globalement, l'identité de l'équipe dans laquelle il évolue. Ouais. C'est que ce sont des joueurs, des clubs où les principes sont très forts et sont forcément partagés par tous les joueurs. Et ils sont globalement les mêmes à tous les postes. Au final, donc on a un Sabitzer par exemple à Leipzig qui peut jouer ailier, mais qui peut aussi très bien, quand il y a des absences, dépanner devant la défense, comme on l'a vu.
Oh, il l'a fait exactement. Au terrain axial, exactement. Et très bon d'ailleurs.
Exactement. Donc cette flexibilité, elle est aussi entretenue et enrichie par l'intégration des principes de jeu très clairs par tous les joueurs.
Moi, je trouve que c'est le football. Enfin, c'est le football d'aujourd'hui pour les grands clubs dont on parle. Pour moi, c'est le football de demain. Quoi. Il faut que ce soit comme ça. Et si, on en revient toujours à nos fameux centres de formation, à ce qu'il faut faire dans notre période. J'encouragerais tous les gens aujourd'hui en France à essayer de travailler comme ça.
On travaille très bien. Enfin, bon, évidemment, il y a toujours des disparités, mais quand on va discuter avec les responsables de la formation à Lorient ou même à Lyon, etc., il y a une vraie réflexion là-dessus sur comment développer
l'habilité du joueur. Allez parler de la formation. Pierre, c'est qui à Caen, le directeur du centre là ? C'est toujours le même ?
Il y a eu longtemps le fameux règlement de compte qui année.
Hein ?
Toujours le même, tu parles de Caen, de ton époque à toi ?
Non. Là, c'est
en
qui
en ce moment, c'est qui là ?
C'est pas de Tadeo ?
Monsieur Nado. Non, c'est Nado. Non,
Tadeo,
il est parti depuis un petit moment.
Tadeo, tu confonds avec la copine de. Le copain de Branco, là.
Il était il y a quoi ? Il y a 3-4 ans, et encore.
Il y a deux ans encore.
Ah, il y a deux ans encore. Mais de Tadeo, j'ai eu. De Tadeo, il était directeur du centre à Caen.
Arrête, c'était un gag, en fait.
Et deux ans. Mais il y a deux ans.
C'était un gag en formation. Et ce qu'il voulait, c'était costaud pied carré.
J'aimerais qu'on conclue, Julien.
Excuse-moi, mais quand t'as ce genre de directeur de centre. Et Pierre me disait qu'il avait un joueur qui passait, mais je me disais, mais attends, mais c'est pas de Tadeo qui peut faire ça, c'est pas possible.
Bon,
donc là, il m'a rassuré, c'est plus lui.
Tiens, j'ai un message de l'ami sur Direct Studio qui nous dit, attention, c'est pas nouveau, Fabregas a été un exemple de ça entre 2006 et 2012. Avec l'Espagne, il jouait faux neuf. À Arsenal, il était meneur de jeu, et sur sa fin, à Barcelone, il était côté gauche.
On revient à sa formation, aux idées de jeu dans lesquelles il a grandi.
Déjà, au Barça, Guardiola évolue un peu comme aujourd'hui, avec un Alves, c'était pratiquement en ailier droit, et le central, enfin, l'arrière gauche devenait un central.
Est-ce que ça t'a pas aussi changé?
On parle des joueurs et tout ça, mais en fait, ces joueurs-là, mais pourquoi ils changent de poste ? Parce qu'il y a une base, c'est que techniquement, ils sont largement au-dessus des autres.
Oui.
Donc, ils peuvent faire
parfois,
ce qu'ils veulent et ils ne sont pas emmerdés.
Alors, est-ce que ça n'a pas aussi changé la façon dont les analystes, les consultants, les journalistes qui suivent le foot, voient les choses ? Je te prends un exemple concret, Marquinhos. Marquinhos, quand il joue devant la défense, le premier réflexe du tout le monde, c'est de dire « Ah ouais, mais il joue là parce que bon, c'est pas son poste. » Alors qu'en fait, au final... On devrait pouvoir dire, il peut jouer là, comme il peut jouer aussi des fois.
Tu as le droit de remarquer qu'il n'est pas méga à l'aise, qu'il n'a pas des automatismes.
Tu vois, mais de la façon d'analyser.
Non, mais c'est pas le bon exemple du tout, donc tu fais une connerie.
Bah, trouve-moi un autre exemple alors.
Mais non, mais à Paris, non, excuse-moi.
Marquinhos, il n'est pas méga. Il peut le faire avec de la montée. Oui, bien sûr. Maintenant, tu as le droit de noter que techniquement, il n'est pas habile comme tous les mecs qu'on a cités avant. Il n'a pas cette habileté technique-là.
C'est pas que techniquement, si je peux me permettre, Daniel, c'est pas que techniquement il n'est pas habile, parce que quand il est face au jeu, que ce soit au milieu
ou derrière,
il est très habile, il est très technique. Sauf qu'il a une difficulté pour moi, Marquinhos, c'est quand il est dos au jeu, sous la pression, dans ses prises de balles, pour se retourner, pour juger un peu l'espace qu'il a. Et ça, c'est quelque chose, malheureusement.
Belle correction, monsieur Ducro.
Alors, je prends un autre exemple. On peut regarder cet exemple-là. On réintègre ça dans un contexte de match et de scénario de match. Quand on est dans une optique pour Paris, peut-être, de laisser le ballon à l'adversaire, de devoir aussi gérer comme c'était le cas.
Pourquoi pas,
ça ne leur arrive pas souvent, c'est plutôt d'être un peu sous pression.
Oui, en effet, mais on peut imaginer dans un grand match, en effet, ça peut être une solution ponctuelle. Et ce n'est pas aberrant de voir Marquinhos dans ce rôle-là. On l'avait vu aussi l'an passé, je crois que c'était contre Liverpool, il avait ce rôle un peu hybride, au milieu de terrain défensivement, et il décrochait pour être face au jeu justement. Donc il y a plein d'adaptations.
On va dire qu'il s'adapte grâce à une énorme générosité et débauche d'énergie. Mais techniquement, il a quand même une petite limite.
Mais c'est pour ça qu'on peut aussi, au sein d'un même match, le faire jouer dans une zone différente, offensivement et défensivement, pour optimiser ses forces et effacer un petit peu ses faiblesses. On va le mettre au milieu de terrain si on veut renforcer l'entrejeu quand on n'a pas le ballon, et on va le faire reculer d'un cran en défense pour le mettre face au jeu
quand on a le ballon. Ce qui me choque plus, tu as raison sur Marquinhos, parce que, attends, moi je suis assez sévère avec lui quand il joue au milieu, mais c'est pas. Parce que Pierre a raison, techniquement, quand il est face au jeu, tu le vois quand il est derrière, il a une bonne passe longue, il voit juste, techniquement, il a pas les pieds carrés, donc ça va. Il l'a noté. Le problème, c'est l'adaptation au milieu, parce que quand tu reçois le ballon dos au jeu, ou de trois quarts, ou truc, c'est comment t'arrives à mettre ton équipe vers l'avant, tu vois. Comment t'arrives à insuffler, si tu veux, un pressing, parce que ce poste-là, aujourd'hui, c'est ça. Je pense qu'il a des lacunes, et moi, je suis sévère avec le PSG quand ils mettent Marquinhos comme ça. Parce que quand je vois les moyens qu'il y a dans ce club et que tu construis un effectif en te disant je vais prendre tel milieu et que tu te retrouves toujours tous les ans sur des matchs à élimination directe, des matchs importants, à te foutre Marquinhos au milieu de terrain. Moi, ça, pour moi, c'est problématique. Parce que Marquinhos, dans un autre club, moins avec des moyens, on parlait de Nagelsmann, tu vois, tu le fous à Leipzig. Aujourd'hui, avec les moyens, moi, ça me choquerait pas de voir Marquinhos au milieu de terrain. La politique du club est comme ça. Donc, le joueur. Mais à Paris, ça me choque. Après, il peut le faire, bien sûr.
C'est vrai qu'il y a quoi? Qu'il y a un vrai spécialiste, quoi. Qu'on ne soit pas obligé de.
Ça me paraît logique. Quand tous les ans, on te dit milieu.
Il faut aussi t'adapter.
Oui. Bah, moi, je pense qu'il y a.
De saison aussi.
Bon, au départ, ce n'était pas du tout ce que je voulais dire, moi, dans la discussion, mais ce n'est pas grave. On est parti sur Marquinhos. Demain, tu reviens, on parlera des coups de pied arrêtés. Demain, et tu vas notamment développer ta théorie sur les corners, qui est très intéressante.
Finalement, est-ce que les corners. C'est ton début de théorie.
Est-ce que les corners, c'est une occasion de but?
Est-ce que c'est une occasion de but?
Je l'avais envoyé il y a 10 jours, il faut que je replonge dedans.
D'accord.
Et oui, parce qu'à chaque fois, tu sais, quand. Par exemple, quand il y a un multiplex, tu vas dire, oh, on va tout de suite à Amiens, il y a un corner. Alors que ça se trouve, en fait, le corner, ça ne fait rien du tout.
Moi, si j'étais entraîneur, il faudrait que ce soit une occasion tout le temps.
C'est pas si évident, malheureusement.
C'est vrai, mais il me faudrait dans l'équipe un mec qui les tire pour que ce soit tout le temps une occasion.
C'est logique.
C'est pas le cas partout. Hein.
Le problème, c'est qu'en face, il y a aussi une équipe
qui veut c'est pourquoi c'est pas le cas partout. Et là, je te parle de la France.
On en parlera demain.
Encore une fois, c'est pas le cas. Ouais, je garde mes arguments pour demain.
Excellent. Merci, Julien. Une info, l'équipe qui annonce ce soir que Bruno Cherou à Lyon s'est fait pour gérer la cellule de recrutement.
C'est pas fait depuis longtemps?
C'était dans les tuyaux, quoi. Là, ils annoncent.
Ils disputaient juste des tickets resto, mais c'était fait.
Bon. Voilà,
c'est bien pour lui, et pour lui, c'est une
quasi inespérée,
une vraie progression, quoi. Bah non, il était directeur sportif
de la section féminine du PSG.
C'est quand même pas pareil que d'aller à Lyon, non?
C'est ce que je te dis.
Et bah donc c'est inespéré.
Inespéré tout de suite, pourquoi? Bah s'il le souhaitait, pourquoi c'est inespéré?
C'est un super poste, tu l'attendais à ce poste-là, toi?
Non, mais je savais pas qu'il recherchait ce poste-là. Donc là, c'est bien pour lui, ça veut dire qu'il était demandeur.
Dans quelques instants, on part en Espagne et vous saurez tout de l'histoire extraordinaire de Luis Arconada. Julien, à demain et à tout de suite dans l'after.
RMC, l'after foot, Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, on est là, Pierre Ducros, Jérôme Rotten, Daniel Riolo et Fred Hermel. Fredo, bonsoir.
Hola chicos.
Ça va Fred?
Salut Fredo. Très bien.
30 degrés à Madrid, j'ai vu aujourd'hui, toi, t'es pas
mal. Ouais, c'est le printemps, là.
Ah, bah ici, ça s'est un peu arrêté.
30 degrés, c'est pas le printemps, c'est l'été.
On va la refiler.
Ah non, mais l'été à Madrid, c'est 40, hein, 45. Hein.
Et ils ont aussi très chaud dans le sud de la France aujourd'hui.
Ouais, mais ça fait du bien. En plus, il y a le jasmin qui commence à fleurir dans mon patio, là, c'est. Puis on peut sortir un petit peu maintenant. Vous savez, depuis samedi, en Espagne, les adultes, parce que les enfants avaient le droit depuis une semaine, les adultes ont le droit de sortir une heure par jour.
Dans le patio, tu fais griller deux, trois trucs ou pas un peu quand
même? Oui, bien sûr. Des petites brochettes marinées au thym.
Très bien.
Ah, très bon,
c'est important.
Ah, c'est délicieux, ouais. Parce que je peux aller au marché, j'ai un très bon marché à côté de chez moi. Il faut faire vivre les petits artisans.
Ça ne m'étonne pas de toi, au thym.
Au thym, oh, c'est très bon le thym et c'est très bon pour la santé. C'est un antiseptique et un antibiotique naturel.
Si je puis me permettre, si tu bouffes 5 kilos de viande rouge, même avec du thym, si tu veux, tu peux mettre tout le thym que tu veux,
il mange pas un demi kilo de viande quand même.
Il y avait 200 grammes, même pas 180 grammes.
C'est un bouffeur de barbac, Fred.
Ouais, mais quand c'est au.
Ton groupe sanguin, c'est au plus à toi.
Ouais.
Et ben voilà. Tous les au plus, c'est les bouffeurs de viande.
Bah moi, je suis au plus, moi.
Bah ouais.
Mais vous savez qu'en plus alors, on ne voudrait pas dire de bêtises, mais c'est un.
Quand même.
Non, je ne vais pas le dire parce que je ne veux pas me porter malheur.
Tu sors toi, qui t'a dit ça
sur le plus.
N'importe quoi. Le plus, c'est des bouffeurs de viande.
Dès qu'on lui dit un truc et qu'il comprend, qu'il ne sait pas, c'est n'importe quoi. C'est quand même fantastique.
Mais non, mais c'est parce que tu sors ça comme ça.
Il y a des prédispositions selon ton groupe sanguin.
Parce que toi, en matière un peu médecine, tu es toujours avec tes médecines un peu parallèles à la Casaray.
Le groupe O, c'est globalement des gens qui sont des mangeurs de viande. C'est comme ça.
Et qui ne doivent pas manger trop de céréales.
Oui, mais comme toi, tu manges des graisses. Tu sais que pendant une semaine, tu manges que du raisin, et parfois pendant une semaine, tu manges que des. que des machins et tout.
Ça n'a rien à voir avec la
Oui, mais où les grains de pépins de pamplemousse, machin.
Je vois,
tu me fais peur avec ces machins.
Pour avoir les aliments qui correspondent à ton groupe sanguin.
Alors, il faut que je vous raconte une histoire extraordinaire.
C'est vraiment là, un Casarai
derrière MC. Par rapport à ça. Mais non, attends, mais il a raison, Casarai.
Ah oui, bien sûr.
Il y avait une.
Ah, mais je dis pas que t'as pas raison, moi. Je dis que tu m'épates. C'est pas pareil.
Bref, oui Fred.
C'est un compliment.
Moi, je dis rien, Gilbert, parce que si je parle des groupes sanguins, il va me dire que je parle de la Ligue 1 encore. Donc, je
ne comprends
pas.
T'es moi, toi alors. T'es moi.
Quel rapport avec les groupes sanguins? Il n'y a pas d'oseille dans les groupes sanguins. Toi, c'est l'oseille maintenant. Ta spécialité.
Il y en a qui en ont fait de l'oseille avec les groupes sanguins. Rappelle-toi.
Ah oui, c'est vrai. Non, ça c'est pas.
C'est vrai.
Un autre.
Bon, je vous raconte mon histoire ou pas? Vous en foutez?
Oui, vas-y.
Oui, vas-y Fred.
Bah, c'est-à-dire que, au temps des Galactés, vous vous souvenez de cet entraîneur très drôle, qui s'appelait Vanderlei Luxembourgo. Très sympa. Le Brésilien.
Vanderlei.
Et donc, il avait ramené une nutritionniste très jolie. Elle était un peu plus que nutritionniste pour lui. Et, j'avais vraiment sympathisé avec elle. J'avais cru espérer à un moment, mais non. Enfin,
mais ils mangeaient ensemble.
Ouais, un peu plus, ouais. Mais moi, j'étais petit pigiste, j'étais pas. Tu vois, c'est tout. Ouais. Bon, bref. Mais elle était très sympa. Et un jour, elle me dit, mais c'est quoi ton groupe sanguin? Je fais, ouais, c'est très sympa. Je dis, bah, au plus. Elle me dit, ah, tu sais, alors justement, la viande, c'est ton.
Voilà.
C'est un truc
donc
de prédilection. Elle me dit, mais faut faire très attention aux céréales. Voilà, elle m'avait expliqué.
Comment ça, faire attention? J'aime bien les céréales, moi.
Bah, c'est-à-dire que quand on est au plus, il faut pas manger trop de céréales parce que ça convient pas à notre métabolisme.
Oui, t'as du mal à le digérer. Et après, tu te sens pas bien.
Exactement.
Mais pourquoi vous ne le dites pas, ça?
Bah, on te le dit ce soir.
Il y a 5 minutes, tu nous dis qu'on te donne des conseils pourris, donc on te les donne
mais
pas.
Mais non, mais je veux savoir d'où vous tenez ça. Est-ce que c'est sérieux? Ouais,
c'est hyper important.
Mais j'en mange qu'une fois par semaine des céréales. C'est bien ou pas bien?
Ça dépend de la quantité, c'est toujours pareil.
Des pâtes, c'est des céréales.
Ah bon?
Mais pas les céréales, le blé, c'est une céréale. Mais c'est tous les aliments à base de céréales, d'orge, de blé.
Oh merde, non, pas les pâtes. Vous faites ce que vous voulez, mais pas les pâtes.
Non, mais certes.
J'ai mangé une pizza ce soir, c'est grave?
Bah oui, c'est des céréales.
Faites maison, hein. C'est moi qui ai fait à la maison, c'était un régal. Alors là.
Ah bah j'en doute pas.
Bref,
alors moi j'ai mangé quelques petits anchois. Allez, on parle d'Arconada.
Moi aussi, c'était sur une de mes pizzas, les anchois.
Parce qu'on est quand même, là, on est quand même une transition assez facile, puisque le Pays Basque est sûrement l'une des régions d'Espagne où on mange le mieux, et Luis Arconada, il vient du Pays Basque.
Exactement. Alors, c'est l'homme d'un club d'ailleurs, hein, Arconada, avant qu'on parle de lui.
Je vais vous raconter tout ça.
En équipe d'Espagne. Alors vas-y, raconte-nous la fabuleuse histoire de Luis Arconada.
Alors les amis, sincèrement, et j'exagère pas du tout, même si j'ai parfois tendance à l'exagération, c'est pas le cas, je pense que l'histoire d'Arconada est peut-être l'une des plus grandes injustices de l'histoire du football international. Parce que ce monsieur dont on se souvient pour une erreur ponctuelle un soir au Parc des Princes en 1984 à l'Euro, puisqu'il était les gardiens de l'Espagne, était un fabuleux gardien. Alors rappelons un peu sa carrière, 13 ans titulaire à la Real Sociedad, l'homme d'un club, 551 matchs chez les Txuri-Urdin, tels qu'on les appelle, c'est la plus belle période de la Real Sociedad, deux fois champion d'Espagne.
Ça il faut que tu le signales, ça, parce que c'est quand même rare que ce soit pas le Real ou le Barça, donc et que
c'était la plus belle équipe, celle que voilà et qui a permis aussi à la Real Sociedad d'avoir des supporters en dehors du Pays Basque. Deux titres de champion, une super coupe d'Espagne, une coupe du roi, une demi-finale de coupe d'Europe, qu'on appelle la Copa de Europa, de Coupe d'Europe des clubs champions, hein, l'ancêtre de notre Ligue des champions. Un joueur extraordinaire qui gagne pendant 3 années le prix Zamora. Le prix Zamora, c'est le gardien qui a encaissé le moins de buts par rapport au nombre de minutes jouées sur une saison. Donc c'est considéré le meilleur gardien.
Oui, on ne confond pas avec le Zamora.
Non, qui est... Oui, c'est pas terrible. C'est autre chose. Et enfin, bref, le Samola, ce prix, il est reçu. Donc, on parle d'un très, très, très grand gardien. D'ailleurs, vous le savez tous. Et si vous
tradition
le savez pas,
des gardiens basques.
Eh ben voilà, mon ami. Tu as une grande culture. Il y a une énorme tradition. Iribar, Zubizarreta, qui sera le remplaçant d'Arconada en sélection espagnole. Et donc, Luis Arconada. Il est souvent capitaine d'ailleurs d'une sélection espagnole, franchement qui fait pas rêver. La sélection espagnole qui se qualifie très difficilement pour l'Euro 84 en France, avec ce fameux, on va faire une petite aparté. L'Espagne avait eu des résultats assez catastrophiques, avait besoin de battre par 11 buts de différence Malte. Bon, ils ont gagné 12-1.
Oh, ce fameux match légendaire. Voilà. Oh
et ben
là
légendaire.
Là
et ben c'est ce qui permet à cette équipe assez médiocre de se qualifier pour l'Euro en France.
Est-ce qu'Arconada est le gardien de la sélection espagnole à la Coupe du Monde espagnole?
Oui, il l'est.
Ah, voilà.
Oui, il l'est. Alors, je vais vous rappeler simplement pour vous dire quelle équipe il y avait. On va prendre le 11 de la finale. Arconada, après, connu, Victor, qui deviendra entraîneur après, qui joue au Barça, Camacho.
Victor avait joué à la Samp aussi à la bonne époque de
exactement,
la Samp.
Exactement, hein. Exactement. Victor.
Avec un physique
vous savez,
bizarre.
Carrasco. Ouais, il est pas très beau. Carrasco, vous savez, qui a joué, mon pote Carrasco, qui a joué à Sochaux après.
Ouais,
et Santillana du Rail, il y avait Senior, il y avait Salva. Enfin, on parle d'une sélection un peu médiocre, qui s'était qualifiée vraiment par la petite porte pour 7 euros. Et là.
Ouais, c'est pas une grande époque de la Roma, non, parce que la Coupe du Monde 82 était horrible.
C'est des coups.
Mais tu sais pourquoi? Mais tu sais comment on les appelait?
Les savateurs.
C'est une on appelait ça la furia, la c'est furie, ça, parce que ça, pour ça. Pas dire que c'était des, ouais. Des mauvais. Donc bref, c'était
quand même pas terrible. C'est pas l'Espagne 2010 quoi.
Non. Et puis l'exemple c'est Camacho, c'est pas la finesse incarnée.
Ah Camacho non.
Et donc à l'Euro, il pense vraiment prendre la porte rapidement. Et puis là, Arconada, il sort des matchs extraordinaires. Il élimine tout seul quasiment l'Allemagne. En demi-finale, séance de pénalty, il est extraordinaire. Il qualifie l'Espagne pour la finale, alors que sincèrement, l'Espagne n'était pas du tout donnée favorite. Et donc ce type qui est l'un des meilleurs gardiens du monde, qui est le meilleur gardien espagnol, qui est essentiel dans toute la phase de qualification pendant la phase finale, qui amène cette équipe en finale, connaît un moment terrible. Vous en souviendrez peut-être, 57e minute, faute sur faute, coup franc direct pour
Platini. Enfin, faute, on est français, oui. On adore les bleus de cette époque, mais ce coup franc, il était vraiment domicile. Ah. La faute sur Bernard Lacombe, là j'avoue.
Faute
que...
de Salva, alors je vous raconte aussi une petite anecdote. Un soir, une amie, je suis dans une réception, une amie me présente. Elle me dit, il faut que je te présente mon fiancé qui s'appelle Salva, je ne le connaissais pas, et elle le présente, c'est... celui qui a fait la faute à l'Euro qui a provoqué le but de Platini. Et donc, en fait,
le
c'est son heure de gloire.
Raté de Platini. Il rate son coup franc en plus.
C'est ça qui est terrible. Alors voilà, racontons le coup franc. C'est qu'il est, il est, il est très mal tiré, il n'est pas très fort. Le ballon retombe. Sincèrement, Arconada, pour un gardien de son niveau, bah c'est du pain béni. Il pense que le ballon est très facile, donc il essaye même pas de le repousser. Il veut le bloquer. Et là, ça passe sous son bras, sous son corps. Il y a une photo extraordinaire prise de par derrière, en noir et blanc,
ouais.
Où on le voit étirant la main en disant non, le ballon va pas rentrer. Il rentre. 1-0 pour la France. Ça finira à 2-0. Et là, ce qui est terrible, c'est que Arconada devient l'objet d'insultes. Il se fait mais démonter pendant des mois et des mois dans la presse espagnole. Celui qui était un immense gardien devient moins que rien. Et ça va au-delà de ça. C'est-à-dire qu'il y a des accusations honteuses contre lui. On l'accuse comme il est basque, et qu'on est quand même à l'époque de l'ETA, du groupe terroriste de l'ETA.
Oui, oui, oui.
On l'accuse à un moment... D'avoir fait exprès... Parce qu'il était menacé par l'ETA. Je vous parle parmi... On sait très bien que c'est pas vrai, mais... ce qui est écrit dans la presse à l'époque et ce qui était dit dans la population espagnole
de pour pas une faire raison... gagner l'Espagne pour des raisons politiques
et voilà alors que c'était pas du tout le cas parce que c'était lui qui avait amené l'Espagne en finale et c'est quelque chose qui reste très fort. Rappelez-vous, et j'en tiens là-dessus pour vous expliquer ce que ça représente pour lui dans sa vie, c'est que il y a à peu près 2 mois ou 3 mois on avait évoqué cette histoire-là rapidement, je sais pas si vous vous souvenez dans l'after, et quelques jours plus tard je croise Luis Arconada fils, puisque le fils de Luis Arconada, qui est un de mes copains, il est le chef de presse de la Real Sociedad. Et c'était le match de demi-finale de Coupe du Roi, Real Madrid, Real Sociedad. Et je sais pas comment Luis avait entendu parler, avait entendu dire que dans l'after, on avait parlé de son père. Et il vient me voir, il me dit, franchement, hein, le pauvre, il en peut plus, on lui raconte toujours cette histoire, j'ai entendu que t'en as parlé, etc. Et là, je termine et je dis, tu sais, le problème, c'est que ton père est devenu une légende à cause de ça. En France, aujourd'hui, quand un gardien fait une boulette comme ça, on dit, il a fait une Arconada.
Eh oui. Et il devient quoi aujourd'hui, cet homme-là ?
Alors, il a bossé un peu dans le foot, etc. Mais c'est quelqu'un qui était déjà discret, mais qui, après tout ce qu'il a subi, parce que c'était honteux. Hein,
et comment était sa carrière derrière ? Il y a eu.
Il continue encore, mais il se blesse quelques années plus tard. Je crois qu'il.
Sa carrière se termine quasi avec ce match, quoi.
Un peu. Non, il continue un petit peu, mais ça sera plus jamais pareil parce qu'il a été vilipendé.
Il a juste
été
en 89 avec la Real Sociedad.
Ouais, mais il y a une grosse blessure en 85, donc il perd rapidement sa place en sélection, plus à cause de la blessure. Bon, c'est vrai que cette histoire ne l'avait pas aidé, mais ce qui est terrible, c'est que, et c'est pourquoi je parlais d'injustice, c'est-à-dire c'est un type qui avait permis à l'Espagne, de manière inespérée, une Espagne de bourrin, d'arriver à la finale, et finalement, on ne se souvient que d'une bourde qui l'a marqué, mais pour toute la vie. Et ça nous a marqué en France aussi, puisque, j'insiste, c'est passé dans le langage courant.
Alors, juste, petite anecdote aussi là-dessus. Il est repassé il n'y a pas longtemps le match d'ailleurs. Je sais plus.
Un soir, j'étais à la maison à faire l'émission et je vous disais que j'étais en train de regarder en même temps.
Voilà, et en fait, on voit Luis Fernandez est titulaire et lui se fait savater par les Espagnols tout le match.
Ah, mais Luis m'a raconté mille fois. Ce match a été très particulier pour lui.
En fait, il se fait insulter par les Espagnols tout le match.
Non, mais il se fait insulter dès le début où on lui dit le mot qui l'a marqué profondément, on lui dit toi, le renégat, qu'est-ce que tu fous là?
Un renegado.
Voilà. Et ça, c'est un mot il m'a raconté l'histoire, mais ça, c'est un mot ça m'a blessé au plus profond. Et c'est vrai, je veux dire, c'est pas vrai que c'est un renégat, mais je comprends que ça puisse te toucher parce que Louis, c'est vraiment 100% espagnol.
Il est né à Tarifa,
il est arrivé à 6 ans, ses parents, l'Espagne, c'est sa culture. Et ouais, le match devait représenter pour lui. Non,
je plaisante.
Non, mais le match pour lui devait représenter quelque chose d'incroyablement fort émotionnellement. Et le fait que Louis, le mec si lui dise ça, ça a décuplé sa motivation pour ce match. Mm. Et les mecs le savataient, ouais, c'est vrai. Et lui aussi, il en a mis quelques-unes. Louis, de toute façon, il rendait.
Je pense qu'il en prenait, il en rendait deux fois plus.
Il était partout sur le terrain et il distribuait.
Voilà donc l'histoire fabuleuse de Darko Lada, quand même 70 sélections avec l'équipe d'Espagne.
Ah ouais, mais c'est terrible, c'est pourquoi c'était bien au-delà de raconter cette histoire, de rendre à Arconada ce qui appartient à Arconada, c'est que c'était un immense gardien et qui est passé dans l'histoire pour quelque chose.
Mais cela dit, à l'époque de l'ETA, justement, là, quand c'était très tendu, il y a les attentats et les meurtres contre les policiers espagnols.
Et pas que policiers, puis les gens dans les supermarchés.
Il y avait des pressions sur les foot basques pour qu'ils jouent pas avec la sélection.
Ah ben bien sûr. Ah bah attends, mais c'est un truc de fou. C'est pas toujours, mais il y a eu des pressions c'est pas pour qu'il ne joue pas avec la sélection. C'est pour qu'il n'aille pas dans d'autres clubs.
Ah, plus que pour ne pas jouer avec la sélection.
C'est-à-dire que
parce qu'il pourrait
ça reste un peu tabou quand même, mais quelqu'un comme Julen Guerrero, on va le dire.
Prends pas de risque, Fredo.
Non.
Ah, quel magnifique joueur, Julen Guerrero. J'adorais ce joueur.
Julen Guerrero, qui avait des propositions. Alors, moi, je parle de ce qu'on raconte, mais bon, vous savez, dans ce genre d'histoire, il avait des propositions. C'était un magnifique joueur.
Il en avait des propositions vu le niveau du mec.
C'était top. Real et Barça. Moi, ce qu'on raconte dans l'historique du foot espagnol, c'est qu'on lui a fait comprendre que c'était pas bien de partir. Voilà. Et puis vous savez, c'était l'époque de ce qu'on appelait l'impôt révolutionnaire. Vous savez, quand on parle souvent des grands cuisiniers basques, ils étaient tous raquettés par les terroristes de l'ETA. Il faut voir ce que ça a été cette période. Ça a été terrible. Moi, j'ai couvert en tant que journaliste, je crois, 12 attentats de l'ETA. Et bien entendu que le football ne pouvait pas. Alors, je veux pas parler à la place de Luis, mais Luis le sait.
Luis, il était entraîneur à Bilbao.
Il était à Bilbao. Donc,
il y avait eu des histoires avec Lizarazu aussi, quand il est venu à Bilbao.
Oui, je me rappelle, moi, de Lizarazu.
Lizarazu a été menacé. Voilà, parce que, et on sait très bien qu'il y a plein de joueurs qui ont dû payer, que des joueurs n'ont pas eu la carrière qu'ils auraient voulu, parce qu'on leur a fait comprendre qu'il fallait rester au Pays Basque, quoi. C'était très, très violent. Donc, ça a été, faut voir ce qu'a été le théâtre, même si aujourd'hui des gens vous parlent encore de libération, de peuple, etc. Le théâtre était l'un des groupes terroristes les plus sanguinaires de l'histoire de l'Europe. Enfin, et ça a eu une influence énorme sur le football. Enfin, c'est vraiment, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses, quoi.
Parce que finalement, l'histoire de Bilbao, en fait, il y a deux façons de la voir. Du club, je te parle, Le côté, oui, alors regardez, c'est un club attaché à ses traditions.
Ah, mais ça, moi, je l'ai toujours dit.
Moi, j'aime beaucoup.
C'est le club qui fait fantasmer le plus de supporters, mais il faut savoir ce que c'est quand même.
D'un autre côté.
Ce que ça signifie.
D'un autre côté, c'est d'un communautarisme extraordinaire, quand même.
C'est une sorte de je sais pas. C'est un peu le Front National appliqué à.
Moi j'aime bien. Moi j'aime bien.
Tu préfères garder le versant tradition, quoi.
Ouais, moi je trouve ça bien parce que c'est une équipe qui est toujours plus forte.
Ce qui est respectable, c'est qu'ils arrivent quand même à aller régulièrement en Coupe d'Europe avec cette règle-là.
Mais c'est pour ça. Mais c'est parce que justement. Alors après, il faut expliquer aussi une chose. Parce que l'envers du décor.
C'est ultra nationaliste.
Non, mais au-delà de ça, c'est quand même, comme ils sont très riches. Ils sont très riches parce que c'est un club qui appartient à Socios. C'est un club qui fonctionne bien, qui a une grosse image en Espagne. C'est un club qui rapporte et surtout il paye les centres de formation des autres clubs basques. C'est-à-dire que la détestation entre les clubs basques est énorme. Quand on parle des grands derbys en Espagne, la Real Sociedad contre l'Athletic Club de Bilbao, c'est énorme. Vraiment, enfin c'est et on sait très bien que parce qu'il a de gros moyens financiers, il a la possibilité d'aller chercher des jeunes. Alors, ça, la zone de recrutement, c'est le Pays Basque espagnol, le Pays Basque français, la Navarre. La Navarre, qui est une communauté autonome différente, enfin une région différente, mais qui est considérée comme basque dans l'idéal basque. Voilà, donc un joueur, vous souvenez de Ursaïs, qui était l'attaquant là, un peu fort, oui. Et tout, bah, très bon, il venait de Navarre. Donc aussi de la Rioja, c'est la zone un peu plus bas où on fait le vin. Voilà. Et okay. Puis après, si vous avez jusqu'à un Argentin, parce qu'il y a beaucoup d'Argentins qui sont d'origine
oui, il faut avoir basque, au moins
un grand-père, d'où il y a tout ça.
Mais Fred,
alors, moi j'aime beaucoup cette philosophie, mais c'est très dur à maintenir. Mais je pense quand même que, après, ils ont un très bon centre de formation, pour conclure, que le fait d'être attaché à ce maillot, à cette culture-là, fait que les joueurs ont un rendement supérieur.
Oui, ça, je suis d'accord.
À leur niveau basique. Voilà, c'est.
Avant de te quitter, Fred, est-ce que tu me fais penser à un truc? Je ne sais pas si on pourra le faire un soir, mais en parlant d'Arconada et de cette période-là, donc on est dans le début des années 80. Comme on est habitué à toujours parler en bien du foot espagnol et de dire à quel point ce foot nous a enchanté, ce serait peut-être pas mal qu'un soir, avec tout le temps qu'on a, on puisse parler des années où ça n'allait pas, le foot espagnol. Et où, justement, ce foot espagnol, c'était beaucoup un foot de savateur, un peu, on va dire, symbolisé par Camacho. Évidemment, dans cette période-là, il y a cette fameuse finale Real Aberdeen en 83, où Aberdeen est dirigé par le jeune Alex Ferguson, qu'on connaît pas encore bien, et où on est tous contents de voir le Real se faire battre tellement il joue, mais c'est horrible la façon qu'il joue au foot. Qui?
Ferguson.
Ah, ouais. Je sais pas, mais en tout cas, cette finale-là, on est tous pour Aberdeen parce que la façon dont joue le Real, c'est fou. Et il y a effectivement, dans cette période, il y a quelques catastrophes un peu du foot espagnol. L'année d'après, il y a le Metz-Barça.
Oui. C'est sûr.
Je crois qu'à cette époque-là, t'as quelques allers-retours entre le Real et l'Inter aussi avec des scores un petit peu dingues.
Après, il y a beaucoup de remontadas aussi.
Voilà.
Parce que c'est l'époque de la Quinta del Buitre.
Il y a un peu de tout
avec
dans cette
Camacho
époque-là.
Et Juanito.
Et voilà. Et je pense qu'il y a des trucs de ce foot espagnol qu'on connaît pas finalement.
Ouais. C'est vrai que les jeunes ne savent pas.
Qui peut être également attachant par certains aspects.
Mais
un football un peu de rameur quand même, tu vois.
Bah écoute, si vous voulez, on fait l'histoire de la Quinta del Buitre parce qu'on va raconter tout ça.
Si tu devais travailler.
Ah, mais ça, c'est les années 90, c'est pas pareil.
C'est la.
Ouais, mais Quinta, c'est plus tard.
Non, mais la Quinta, ça veut dire. Alors,
c'est le renouveau du Real, ça.
Oui, mais c'est pour ça, mais je trouve que c'est rigolo de raconter. On va raconter les deux. Tu vois comment on est passé de ça à la Quinta del Buitre, parce que la Quinta del Buitre, Quinta, ça veut dire génération. Et Buitre, c'est un journaliste espagnol qui, en parlant de Butragueño, ça fait Buitre, dit, c'est la génération de Butragueño, du Buitre. Oui. Et c'est resté comme ça. Voilà, c'est
bon, après, ça ne les empêche pas de gagner des trophées, puisqu'ils doivent gagner la Coupe UEFA en 85, je crois.
Mais ils gagnent pas la Ligue des Champions. Non. Et dans un club qui en a 13, que cette génération-là n'ait pas gagné, ça restera.
C'est une sale période.
Merci Fred.
Merci les amis.
À bientôt.
Adios.
Deux petites infos, vous dire que le Yundula est nommé directeur sportif de Dijon. Voilà, il est déjà au club, il s'occupait du recrutement. Et donc, d'après ce que Jérôme, tu me disais là, Ben Arfa,
out.
Non.
Il sera pas conservé par le Covid. Jugé hors de forme.
Mais non, mais c'est pas vrai. Mais pourquoi il le garde pas?
Il est hors de forme, merde.
Bah ouais. Il a joué 22 minutes. Quand
même. Non, mais il veut rebondir en Ligue.
Dans quelques instants, le quiz, la finale. Jérôme, concentre-toi.
Moi, je
Julien
conseillerais
Cazard,
d'envisager arrive. D'être consultant, merde.
Jonathan McCarthy.
Parce qu'il fera de mieux, je pense.
Allez, à tout de suite, d'Aft.
RMC jusqu'à minuit. L'After Foot. Gilbert Bribois.
Daniel Riolo, Jérôme Rotten, Pierre Ducrot et Julien Cazard qui nous rejoint. Julien, bonsoir.
Bonsoir à toutes et à tous.
Attention, ce soir, manche 1 de la grande finale du Grand Tournoi.
Juste en préambule, je tiens à dire que pour moi, le Real de cette époque, bien dégueu, c'est Uwe Stielike avec sa tête de collabo. Il faisait peur, moi, ce type.
Stielike,
collabo, je sais pas, pour un Allemand.
Non, je veux dire collabo. Non, mais de tête, il avait la tête un peu de Ramirez. Tu
voilà,
vois,
il ressemble à Ramirez.
Petit côté Ramirez.
Rami.
Rami. Il n'y a plus de Rami.
C'est ça. Attention.
Parlez pas d'Adil.
La finale des JJJ. Jonathan, Jérôme, c'est parti. Jingle, le grand tournoi.
Le grand tournoi.
Dans notre monde à nous, A plus 1 égale 2 plus 2 égale 4. Comme ça, on devient selfish, on prend du pognon et on partage pas. Ou peut-être que 1 plus 1 égale 11.
Jonathan McCarthy, bonsoir.
Salut les gars.
Ah,
Alors, je rappelle le principe. On est en finale. Hein. Finale au meilleur des trois victoires. Donc, autant ça peut se terminer mercredi, autant ça peut se terminer jeudi, autant ça peut se terminer début de semaine prochaine.
Attends, Gilbert.
Oui.
C'est au meilleur des trois.
En 3-7 gagnants.
Ouais,
en 3-7 gagnants.
3 manches
gagnants. 3-7 gagnants. Oui, c'est pas au meilleur des 3 manches. C'est
3-7 gagnants.
Au meilleur des 5 manches, on dirait au tennis.
Voilà, exactement. Exactement, Julien. Donc, les gars, attention, c'est parti, hein, bien sûr. À chaque fois, on fait 10 minutes tous les soirs. Là, normalement, c'est la crème de la crème des meilleurs des derniers mois. Hein.
Alors, Gilbert, je vais donc lancer le match de ce soir, puisque je rappelle que ce soir, c'est Jérôme qui reçoit. On est au Parc des Princes.
Bienvenue.
C'est pas PSGOM. Un classico. On est au parc là. Tu te sens chez toi là, Jérôme? C'est bon là?
J'espère que tu feras la même match de l'attend demain. Hein.
Jérôme. Imaginez juste, fermez les yeux, imaginez Jonathan avec des chaussures de foot, un short, et dans le tunnel.
Déjà à Bower c'était pas génial.
C'est pour ça.
C'est un genre de Brandaglou, mélange de Brandao et Mitroglou.
Et encore c'est gentil. Hein.
Brandaglou. Je pense que Brandaglou ça tirait bien. Alors Brandaglou.
Comment t'as pu aimer à ce point le foot sans savoir taper dans un ballon?
On va commencer avec un petit Kikapadi. Ça faisait longtemps. Attention, Kikapadi. Comme tous les grands blonds venus du froid, j'ai peur de rien. Et c'est pas votre petit virus à la con qui va me faire flipper.
Moi,
s'il faut jouer, je rappelle qu'il a pas dit. S'il faut jouer, moi je m'en tape, je vais sur le terrain. Je fais confiance à mon club puisque de toute façon il est détenu par une grande démocratie qui est à cheval sur les droits de l'homme et la liberté sexuelle. En plus, ils sont hyper branchés alcool et charcuterie. Je vous laisse, j'ai mon beau-père qui m'appelle. En plus, s'il veut me parler foot, c'est galère, il a les pieds carrés, il y connaît rien. Mon ex-beau-père, c'est vraiment un tocard au niveau foot.
Jonathan dit Neymar. Hein.
Stéphane.
Non. Comme tous les grands blonds venus du froid. Déjà, Kikapadi.
Attends, Jonathan dit Neymar. C'est pas bon, Neymar?
Non, Neymar. Son beau-père, il dirait de son beau-père, il a les pieds carrés. Un mec qui dirait que son ex-beau-père a les pieds carrés, sachant que c'est un Kikapadi.
Xavi.
Il joue pour une démocratie. Alors, il n'y a pas que le PSG hein, qui est.
Agüero.
Jérôme Roten, Agüero, et oui, son beau-père, c'est vraiment un tocard qui connaît rien.
Son ex-beau-père,
c'est Maradona. Bravo Jérôme qui marque un point à domicile. Je rappelle Jérôme que tu as une sacrée pression. Le PSG n'a pas perdu depuis 9 ans contre Marseille. Donc, fais pas la honte. Fous pas la honte au club.
1-0 pour Jérôme, il reste 6 minutes 40.
On va enchaîner avec un petit quoi-qui-kiff-kiff. Attention, quoi-qui-kiff-kiff. Amiens, Bordeaux, Monaco, Paris, Marseille. Amiens, Bordeaux, Monaco, Paris, Marseille. Ça correspond à cette année. Hein. Amiens, Bordeaux, Monaco. Ils ont tous quoi?
Non, c'est le TGS, non.
Ils ont tous perdu contre ta belle-sœur? Non, c'est pas ça. Amiens, non. Bordeaux, Monaco, Paris, Marseille. Un petit indice.
Ils ont tous sûrement été une fois premiers.
Non, Marseille, pauvre chérie. Amiens, Bordeaux, Monaco, Paris, Marseille. Un indice, ça concerne les entraîneurs.
Ah,
Entraîneur étranger, Jonathan Macardy, un partout.
Eh oui,
un partout reste 6 minutes.
Facile.
On est toujours au Parc des Princes. Attention, quoi qu'il kiffe, ça peut aller très vite. Roussillon, Prior, Boateng, Leroy. Hein?
Jérôme.
2-1 pour Jérôme Roten. Quoi qu'il kiffe, Bayern Munich, Inter Milan, Barça, Ajax. Bayern Munich, Inter Milan, Barça, Ajax.
Il faut un indice.
C'est un indice, ça concerne le palmarès.
Bayern Munich. 4 Ligue des Champions.
Plus 4 titres en Ligue des Champions.
5. Non, c'est pas ça. C'est sur
ils
une année.
Ils ont gagné toutes les Coupes d'Europe. Non, ils ont gagné tous les titres Bayern, sur une année.
Ils ont gagné tous les titres sur une année. Bayern, Inter, Barça, Ajax, Jérôme Rotten.
Ah ouais, ils ont fait grand chelem, championnat, coupe. Ouais.
Ils ont fait championnat, coupe, Ligue des Champions.
Ouais. 3-1 pour Jérôme Rotten, il reste 5 minutes.
Dernier, quoi qu'il kiffe.
Il y en a plein d'autres qui ont fait ça.
Il est facile. Okay. Ouais, il y en a plein, oui, c'est ça. Bah, vas-y, mon pote. Ouais. Tu nous l'hésites et puis on revient. Carambeu, ouais. Varane, Kedira, Roberto Carlos.
Ils ont joué à Real.
Non, mais c'est vrai qu'ils ont joué au Real.
Ouais.
Mais c'est pas ça. Carambeu, Varane, Kedira, Roberto Carlos. Effectivement, leur point commun, c'est que ce qui s'est passé là, ils l'ont fait, je crois, avec le Real tous.
C'est ils un truc en est... finale de Ligue des Champions.
Non, ils ont fait un truc.
Il a fait le doublé Ligue des Champions, Coupe du Monde.
Ah oui. Ligue des Champions, Coupe du Monde, exactement. Oui. C'est très très rare. Oui. Carambeu en 98, Varane en 2018, ah, Kedira en 2014, Roberto Carlos en 2002.
3-2, il reste 4 minutes 12.
Attention, on va faire un petit kiki speak parce que c'est normal. On est au stade. Attention, Jérôme Rotten. Pour le Paris Saint-Germain 2003-2004, en numéro 11.
Numéro 11.
2003-2004, en numéro 11. Oh,
Fiorez.
Fabrice Fiorez.
Ah, bien joué.
On sort bien là. Alors là.
Il faut le scander.
Bien joué.
4-1.
Jonathan Macardy. Pour l'équipe de France à la Coupe du Monde 2010. En numéro 9. Faut aller vite.
André Pierre Gignac.
Djibril Cissé. Gignac était numéro 11. Pour le Paris Saint-Germain, Jérôme. En 96-97. En numéro 7.
96-97.
En numéro 7.
Patrice Loco.
Leonardo.
Ah oui, quel con, pas lui.
Mais oui,
peut pas le rater.
Leonardo, putain, oh non, c'était des cadeaux.
J'ai pas le droit.
Pour le Real Madrid, Jonathan Macardy, 2001-2002, ouais. En numéro 9.
Ronaldo.
Fernando Morientes.
Ah putain.
Il arrive après Ronaldo. Hein. Je crois que c'est le dernier des Galactiques à
l'avant dernier.
Attention, on va passer au
4-2. Il reste 2 minutes 50.
Qui s'est passé? En 2001, quel attaquant brésilien arrive de Flamengo en échange de Vampeta au PSG? C'est pas une...
Christian.
Alors, non.
Non,
mais aussi
non,
nul.
Non.
Il a un nom qui est presque un grand attaquant brésilien.
Rinaldo.
Jérôme Rotten. Non,
ah, j'ai dit par Jérôme Rotten. Avec lui en plus.
Bien joué.
5-2, il reste 2 minutes 20.
En 2001-2002, quelle équipe française se qualifie pour la deuxième phase de groupe de Ligue des Champions? Il y avait deux phases de groupe à l'époque.
En
il
n'y
a qu'une équipe française
en
qui
quelle
se...
année
En 2001-2002, il n'y a Nantes. Qu'une équipe française.
Nantes.
Jérôme Rotten, magnifique.
Ah,
le Nantes de Pierre-Yves André.
6-2, 1-7-0.
Qui est, en 2002, qui est le meilleur buteur de l'équipe de France à la Coupe du Monde en 2002?
Il n'y en a
en
pas.
2002. Il n'y en a pas. Jérôme Rotten, 0 but.
7-2.
Oh, ils ont fait une belle Coupe du Monde en 2000.
En 66, en finale de Coupe du Monde, qui marque un triplé pour l'Angleterre?
En combien?
En 66.
Bon, alors là, c'est.
Je suis là, j'essaie
Hurst,
de taper.
Hurst.
Ah oui, on l'a
le
fait.
Le fameux but qui n'est jamais rentré.
Ouais. Il l'a fait la dernière.
7-3. Il reste 1 minute 30.
Quel joueur marseillais à l'époque de l'affaire OMVA avait un patronyme plus adapté que les vrais protagonistes de l'affaire?
Hein?
Et qui, à l'époque de l'affaire OMVA, il y avait un joueur de Marseille qui avait un patronyme qui allait beaucoup mieux avec l'affaire que les autres alors qu'il n'y était pas mêlé. Quel était-il? Il avait un nom à faire partie de l'affaire OMVA. Il était dans l'équipe de l'OM. Un attaquant. Un attaquant qui avait un nom à faire partie d'une arnaque.
Voleur.
C'est voleur. Attention.
8-3, il reste 50 secondes.
Il était dedans.
En 2002-2003, pour l'Olympique Lyonnais, qui est meilleur buteur de Ligue 1? Non. En 2002-2003, le meilleur buteur de l'Olympique Lyonnais, non, t'en as dit deux. T'en as dit deux, maintenant c'est à Jonathan. T'as droit à un, Jonathan.
Louis Ndoula.
Non, c'était Juninho.
Non, je l'ai.
Non, trop tard, c'était Juninho. En 2002-2003, c'est Paoletta qui est le meilleur joueur de Ligue 1. Mais il marque combien de buts pour le PSG cette année-là? En 2002-2003, il est pas au PSG. Il est à Bordeaux. Bonne réponse de Jérôme Rotten.
Jérôme, 9-3. 9-3, 20 secondes.
Il reste des secondes. Dernière question. Qui marque le dernier but au Parc des Princes à Joël Bass, dernier match de sa carrière? Un champion du monde. Qui marque le dernier but de Joël Bass sur un lob de 35 mètres?
Gary?
Non. Un champion du monde à l'époque, il est champion du monde. Ah, ouais, c'était Jorge Burruchaga.
Ah, exact. J'y étais avec au Nantes. Parc en plus.
Mais moi aussi, j'y étais. On y était.
Bah, ouais.
C'était magnifique. C'était magnifique.
J'ai monté dessus. Hein,
dans cette grande finale du grand tour.
Au Thaï Rouge? T'étais au Thaï Rouge?
Oui.
Jérôme Rotten mène une manche à zéro, mais Jonathan pourra se refaire dès demain soir.
Et ça se passe comment? C'est au nombre de manches ou à la distance?
Non, 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 nombre de manches.
On fait pas,
Okay. Ok, ouais, parce que là,
t'as bien joué, Jérôme.
C'est
ouais.
Pareil.
Alors, demain, ce sera à domicile, ce sera au Vélodrome. Hein.
Ce sera au Vélodrome. Okay. À demain, ouais. À demain, les gars. Merci, Jonathan.
Merci, les gars.
Bravo.
Demain, 22h, bien sûr, l'After sera là avec vous tous en direct.
RMC. L'After Foot.